Il est 8h42.
France Inter, le 7-9, intervenez.
01 45 24 7000, Sabine nous appelle du Berry. Bonjour Sabine.
Bonjour à tous. Je voulais poser une question. C'est pas pour moi, c'est pour ma sœur qui a cotisé toute sa vie à un régime spécial. Donc elle aimerait savoir qu'est-ce qui va arriver au moment de la retraite. Est-ce qu'on lui rembourse les cotisations? Comment ça se passe, quoi?
Voilà. Merci Sabine. Richard Ferrand.
Oui. Dans le projet que nous portons, je vous l'ai dit tout à l'heure, les personnes qui sont à la retraite ne seront pas touchées. Et les personnes qui, dans 5 ou 6 ans, seront à la retraite, ne seront pas non plus touchées, car il s'agit de mettre en œuvre une réforme qui est progressive. Donc pour la sœur de madame, si j'ai bien compris, elle a cotisé toute sa vie, rien ne va changer.
Ouais. C'est assez commode de laisser penser, enfin d'annoncer que pendant le quinquennat à venir, tous ceux qui partiront à la retraite ne seront pas touchés. Ça sera pour après.
Non mais, monsieur Cohen, je sais bien que vous travaillez dans l'actualité quotidienne, mais les réformes qui réussissent sont des réformes qui se mettent progressivement en place. Regardez les réformes de 93.
En Suède, ça a pris 20 ans.
Certains se mettent en place qu'aujourd'hui. Mmh. Il faut retrouver aussi le goût du temps long. Si vous essayez de faire le grand soir d'une réforme en claquant des doigts, vous êtes sûr que vous allez dans le mur. Donc il faut dire l'objectif, nous venons de le dire et nous l'affirmons avant les élections. Ensuite, nous mettrons les modalités en place progressivement pour que la réforme soit de plein effet dans une dizaine d'années. Et vous verrez qu'à ce moment-là, il y aura un regard sur les retraites qui sera à nouveau confiant. Car aujourd'hui, les jeunes qui commencent à travailler, vous le dites sous forme de boutade, mais de toute façon, nous, on n'aura pas de retraite.
Oui, ça ne sera pas payé. On entend ça souvent.
On l'entend souvent. Eh bien, justement, nous dirons, voilà les règles du jeu. Ce qui fait que d'ici 7-8 ans, vous pourrez sur votre smartphone ou votre iPhone en direct, voir où vous en êtes de votre retraite. Aujourd'hui, c'est infaisable. La revue INSEE de sortie il y a 2 jours indique bien que si vous avez fait 10 ans dans le privé, 15 ans dans le public, vous êtes revenu 10 ans dans le privé, c'est la loterie. Je vous engage à lire cette revue qui est sortie il y a 2 jours, qui explique que dans quel système de loterie on est, tellement les modes de calcul sont improbables. Ce n'est pas possible. Il faut redonner la confiance dans notre système de retraite sur une base simple. 1 euro cotisé rapporte à tout le monde la même chose.
Ce qu'on comprend pas bien, Richard Ferrand, c'est comment cette réforme pourrait régler la question de l'allongement de la durée de la vie.
Écoutez,
vous ne modifiez pas les paramètres, vous dites on va garder les pensions, l'âge de départ.
Aujourd'hui les réformes qui se sont succédées, et il y en a eu un certain nombre, la dernière sous le gouvernement de Jean-Marc Ayrault, ont fait qu'il n'y a pas en réalité de problème de financement à moyen terme sur les retraites. Donc il faut arrêter aussi d'associer tout le temps le mot réforme au mot punition. C'est comme ça sinon qu'on peut plus rien faire dans notre pays. Donc les questions du financement sur le moyen terme ont été réglées. Maintenant, il faut nous engager dans un système qui soit plus juste et plus égalitaire.
Vincent nous appelle de Colombes. Bonjour Vincent.
Bonjour Monsieur Cohen.
Bonjour, nous vous écoutons.
Alors moi, écoute, j'ai aussi toujours une question autour des justement du projet de retraite de M. Macron. Donc j'aimerais savoir si le principe de la décote, est-ce qu'il va être abandonné?
Bonne question.
Ce futur projet. Et donc est-ce qu'on pourra, on va dire, partir à 62 ans avec une retraite, on va dire, plus ou moins à taux plein, si on a la possibilité aussi de cotiser plus volontairement, quoi.
Merci Vincent. Richard Ferrand.
Bien, bonjour monsieur. Tout à l'heure, monsieur Cohen, par sa formule, a donné la réponse à votre question. On va vers une forme de retraite à la carte. Ça signifie qu'en effet, vous et moi aurons cotisé jusqu'à un certain montant qui ouvrira un certain nombre de droits, de sorte que pour certains qui le pourraient ou qui le voudraient, il y aurait la possibilité de partir plus tôt, mais à hauteur de ceux qui auraient été cotisés, et pour d'autres, de partir plus tard. Mais en tout cas, l'âge légal, lui, ne variera pas.
Alors, un message de quelqu'un qui vous connaît, que vous devez connaître, Richard Ferrand, un conseiller municipal de Châtelain qui se présente comme soutien de Benoît Hamon. Il s'appelle Yves Formentin-Maury, vous voyez qui c'est?
Ah, je le connais bien, oui.
Voilà, cher Richard Ferrand, où supprimes-tu les 120 000 postes de fonctionnaires? C'est un message adressé sur l'appli... Non, c'est sur Twitter.
Eh bien, écoutez, la grande différence qu'il y a entre la démarche d'Emmanuel Macron et de François Fillon dans les programmes, elle est là. François Fillon, au fond, il revient avec la vieille technique du rabot, c'est-à-dire ce que tous les ministres du budget ont échoué à faire. Puisque chaque ministre du budget qui arrive, chaque ministre de la Santé, c'est il faut faire des économies. Résultat, ils n'en font jamais, et ensuite le déficit se creuse. Nous, ce que nous disons, contrairement à Fillon, c'est que nous n'avons pas pour objectif de diminuer le nombre de fonctionnaires. Nous disons que c'est un référentiel qui nous paraît tenable. Pourquoi ? Et là vient la réponse. C'est parce que nous considérons qu'il y a des secteurs où il faut renforcer les effectifs, éducation, justice, police, maintenir les effectifs, secteur hospitalier, et que sur un certain nombre d'autres postes, il faut investir pour faire en sorte que on puisse avoir besoin de moins de fonctionnaires et donc de faire mieux et qui coûte moins cher. En clair, nous pensons qu'il y a un certain nombre d'administrations centrales, y compris, qui doivent être supprimées, avec des fonctions de l'État qui aujourd'hui ne nécessitent pas autant de personnes. Nous pensons que l'investissement dans la numérisation, par exemple, pour atteindre un certain nombre de formalités, un meilleur management aussi. Car voyez-vous, ce qui va mal dans ce pays, c'est que ce pays n'est pas géré. L'État n'est pas géré. Vous avez des ministres qui ne sont pas responsables sur la gestion de leur ministère. Un ministre, c'est d'abord un chef de service, si je puis dire. Il porte une politique, mais il doit manager son administration. Les directeurs d'administration ont été dépossédés de leur autorité, parce que c'est les cabinets qui gouvernent. C'est pourquoi il faut rétrécir les cabinets. Et il faut que partout, dans chaque administration, chacun soit responsable pleinement du budget qu'il a à gérer, de l'organisation et du management, si je puis dire, de l'action publique. Il faut radicalement moderniser. Mais je réponds à Yves Formentin-Maury, Yfik même qu'on l'appelle en Bretagne, c'est son petit nom, je lui réponds que nous, on n'a pas pour objectif de dire, voilà, on supprime 120 000 postes. On dit que tendanciellement, il faut investir pour gérer mieux, pour manager mieux, et faire en sorte que on renforce les moyens et les embauches là où c'est nécessaire et qu'ailleurs, on puisse les diminuer.
Mais alors, quelles sont les administrations centrales qui mériteraient une cure de minceur la plus volumineuse, me semble-t-il, reste celle de Bercy, les impôts. Est-ce que c'est vraiment opportun d'aller enlever des fonctionnaires des impôts au moment où on cherche à faire rentrer des recettes fiscales?
Non, ça ce n'est pas le but. Non, ce que nous disons, c'est que vous le voyez bien sur le terrain, dans le Finistère, venons-y, puisqu'on en parlait un instant, vous avez certaines administrations qui ne sont pas en capacité de répondre aux besoins, et vous avez d'autres, notamment l'administration centrale, c'est le vieux jacobinisme français, qui sont obèses. Donc, il faut des fonctionnaires de terrain qui puissent répondre aux besoins du terrain et qui eux-mêmes aient plus d'initiative. D'ailleurs, un des enjeux essentiels de notre programme est de dire qu'il nous faut passer d'une administration de conseil, d'une administration de sanction à une administration de conseil. C'est extrêmement important, cette notion de droit à l'erreur que nous voulons introduire, pour que lorsqu'un fonctionnaire intervient dans une ferme, dans une entreprise, auprès d'un bénéficiaire du RSA ou d'une allocation, il puisse être d'abord dans le conseil, dans la rectification de l'erreur, avant d'être dans la sanction. Ça aussi, c'est pour, j'ai envie de dire, redonner un peu le moral aux fonctionnaires qui sont toujours montrés du doigt.
Alors, il y a pas mal de questions qui vont dans le même sens. Dans sa réforme des retraites, Emmanuel Macron inclut-il la retraite des parlementaires? Oui, je crois.
Absolument. La retraite des parlementaires aujourd'hui est un privilège. Il faut nommer les choses. Et donc, nous avons dit que nous allons abolir ce système et que nous allons faire en sorte que la retraite des parlementaires soit calée sur le régime général.
Et ce faisant, vous donnez satisfaction à François Bayrou, qui réclamait explicitement que ces privilèges-là soient...
Oui,
dans le programme d'avant.
Je ne veux pas revendiquer de droit d'auteur, mais c'était avant François Bayrou. Je sais qu'il approuve.
D'accord. Très bien. Selim nous appelle de Sartrouville. Bonjour.
Oui, bonjour Monsieur Cohen, bonjour Monsieur Ferrand.
Bonjour Monsieur.
Monsieur Ferrand, moi je voulais saluer votre indignation concernant la probité des élus et leurs actions et les promesses qu'ils pouvaient dire et ne pas tenir derrière. Par contre, j'ai une petite interrogation. Vous êtes aujourd'hui secrétaire général du mouvement En Marche. Et quand on regarde sur le site du Parti Socialiste dans la liste des législatives et des gens qui sont investis, on trouve votre nom dans la 6e circonscription du Finistère. Comment est-ce que vous pouvez expliquer ce fait aujourd'hui?
Écoutez, je vais vous l'expliquer. Moi, vous savez, cela fait plus de 30 ans que j'ai adhéré au Parti Socialiste et que j'y milite. J'ai été élu pour la première fois député en 2012 avec la confiance des militantes et des militants socialistes. Lorsque la question du renouvellement de mon investiture s'est posée, je suis allé devant eux, nous avons tenu deux réunions, et je leur ai expliqué pourquoi aujourd'hui j'étais dans mes convictions, qui n'ont pas changé, en phase avec la démarche d'Emmanuel Macron. Et je leur ai demandé donc s'ils me donnaient leur confiance ou pas pour porter en quelque sorte les couleurs de nos valeurs et de nos idées. J'avais un concurrent et à 80%, ils m'ont répondu oui en connaissance de cause. Donc voyez-vous, mes convictions n'ont pas changé et j'estime que c'est depuis le début dans la démarche d'Emmanuel Macron que je dois les porter. Mais ne vous inquiétez pas, bon ordre va être mis. Prochainement, on va me dire que je n'ai pas besoin de porter d'étiquette. Mais vous savez, je suis un rural. Et moi, l'étiquetage, je trouve que c'est très important pour l'origine des viandes. Pour ce qui concerne les convictions, les miennes, elles sont constantes. Et je n'ai pas besoin d'étiquette pour les avoir.
Et vous aurez sans doute face à vous un candidat écolo.
C'est ce que j'ai appris dans le journal.
Vous avez lu ça dans la presse.
Les socialistes finistériens. Enfin, non, parisien. C'est le siège parisien qui a décidé d'étiqueter socialiste un candidat vert. Ça, ce sont les suites de l'accord, semble-t-il, Hamon-Jadot.
Hamon-Jadot. Une question de Thomas Legrand pour finir.
Une remarque sur la traçabilité. Vous serez pas député socialiste du coup. Vous ne serez pas député du groupe socialiste. Il y aura un autre groupe. On a un peu de mal à comprendre comment va se constituer cette majorité.
Vous savez, je suis un socialiste en marche. Il y a des centristes en marche.
Par exemple, si les...
Et donc il y aura un groupe en marche.
D'accord. Voilà. Mais à l'Assemblée, il faut s'asseoir dans un siège. On ne peut plus marcher.
Eh ben, alors, ce sera un groupe en marche.
Est-ce que c'est une élection à deux tours? Est-ce que, entre les deux tours, que vont faire les députés ou les candidats en marche qui n'ont pas 12,5% des inscrits qui ne peuvent pas se maintenir? Est-ce qu'ils vont aller vers la droite? Est-ce qu'ils vont aller vers la gauche? Est-ce qu'ils vont se désister?
Thomas, on n'a plus le temps là. Donc,
on n'a plus le temps, d'accord.
Il faut
53, c'est vrai.
Très vite, Richard Ferrand.
Écoutez, moi je suis venu vous parler d'un projet, vous me parlez de patouille.
Non, pas Batou, je veux savoir comment ce projet peut être
Laissez-nous le temps d'avancer. Nous portons un candidat, ensuite nous porterons une majorité.
D'accord.
Et déjà, nous avons dit que notre groupe serait pluraliste. Il portera donc la pluralité de ce qu'est En Marche et nous serons rassemblés pour porter le projet présidentiel.
On veut juste savoir si ça peut marcher.
Une petite pause.
Ça marchera.
Une petite pause. Quelques chocolats avant d'accueillir Augustin Trapenard.